C'est vrai que nous avons besoin de cette parole, besoin qu'elle nous rappelle le contenu de notre foi, besoin d'avoir cette foi solide pour nous sachions en quoi nous croyons. Il est nécessaire de s'arrêter pour mieux connaître qui est Dieu, et c'est ce que nous souhaitons faire, mais ce n'est pas suffisant. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Jacques 2,19. Le chrétien croit en Dieu. Il croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il fait bien. Il va au culte le dimanche parce que c'est voulu par Dieu. Mais est-ce tout? Ce verset de Jacques me rappelle, nous rappelle, que la foi se vit jour après jour dans chacun de nos choix, à l'église, en famille, au travail. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes appelés à vivre notre foi. Nous avons commencé ensemble l'épître de Tite. Paul a demandé à Tite, de ce collaborateur, d'organiser les églises de Crète. Il se trouve sur une île qui est réputée pour la méchanceté et les nombreux vices de ses habitants. Tite doit donc organiser l'église, nommer des anciens, mais son enseignement ne s'arrête pas là, et après avoir parcouru donc le premier chapitre, nous continuons notre lecture au chapitre 2 de l'épître de Paul à Tite. Tite chapitre 2, et je vais lire les 10 premiers versets. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises chacune à son propre mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Pour toi, je pense que la Bible Sommer traduit mieux avec le début du chapitre 2, toi, au contraire, c'est plus fidèle au texte grec, toi au contraire. Paul vient de parler à la fin du chapitre 1 des faux docteurs, et il dit, mais toi au contraire, il doit y avoir entre ses adversaires de la foi chrétienne et toi une différence claire et nette. Dis ces choses. L'enseignement passe par l'exemple, mais premièrement par des paroles claires, nettes, fiables. Et puis on parle de saine doctrine. La doctrine doit être saine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contaminée par des faux enseignements. Une doctrine de vie qui n'est pas corrompue. Un peu comme un fruit sain. Ça arrive en ce moment, ces fruits magnifiques qui ne sont pas contaminés. Un fruit bon à manger qui favorise la vie, par opposition à un fruit qui commence à pourrir, qui est déjà atteint par la mort. Une saine doctrine. Alors le mot doctrine fait toujours un peu peur. On n'aime pas. Pense à ces connaissances intellectuelles qui divisent, ou à ces doctrines du sexe des anges. Combien y a-t-il d'anges sur une tête d'épingle? Enfin, ces questions super importantes, hein, qui nous aident tous les lundis matins. Mais c'est pas ça la doctrine. Voilà ce que Paul écrit. Grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Romains 6,17. Une doctrine de Dieu qui montre la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui consiste à vivre d'une manière nouvelle et sortir de l'esclavage du péché. C'est ça. Et Paul demande à Tite d'avoir un enseignement sain qui favorise le développement de la vie, qui permette de ne pas retomber dans un esclavage du péché, parfois favorisé par de mauvaises doctrines. On est à l'époque de la nourriture saine. Il faut manger sainement. Il y a quelques années, un homme a fait un test. Il se nourrissait uniquement de nourriture fast-food, celle avec un grand M, non pas Migros, le grand M de Ronald. Et donc il allait, il prenait chaque fois ses menus avec tous les sodas et toute la nourriture qu'elle avait avec. Et il était suivi par des médecins, il voulait tenir une année, il a tenu l'année contre l'avis des médecins. Ils ont vu sa santé se détériorer à vitesse grand V. Pression, taux de cholestérol, les organes avaient commencé à être atteints, mauvaise graisse, sucre dans le sang, c'était une catastrophe. Alors c'est vrai qu'il y a certaines nourritures qui sont pas saines du tout, qui font tellement envie. Mais on sait que c'est une nourriture qui n'est pas bonne pour la santé. Et on doit s'en méfier. Recherchons avec encore plus d'ardeur la saine doctrine. Refusons tout ce qui n'est pas conforme à l'enseignement biblique, qui va empoisonner notre âme au risque de causer de gros dégâts. On refuse aujourd'hui certaines doctrines. On refuse la saine doctrine. On refuse la doctrine de l'enfer. Et pourtant Jésus en a énormément parlé. On refuse un Dieu qui condamne le péché et le pécheur, au risque d'en faire un Dieu au rabais et de souiller sa justice et sa sainteté. On refuse de condamner certains péchés, comme l'homosexualité, ou le manque d'amour, ou la médisance. On n'aime pas dire à l'être humain qu'il est pécheur, séparé de Dieu. On n'aime pas dire que seul Jésus sauve, au risque de mépriser son sacrifice, de le rendre inutile et de se moquer de Dieu. On laisse croire à l'être humain qu'il peut gagner son salut, ou du moins le mériter, alors que tout est par grâce, que tout vient de Dieu et que tout est pour lui. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Et si un excès de nourriture, un fast-food de temps en temps, semble-t-il, n'est pas si mauvais, même les nutritionnistes le disent, à condition que l'ensemble soit sain, mais même un excès de temps en temps n'est pas trop gênant, dans le cadre de la doctrine, un petit élément faux peut tout gâcher. On parle vraiment de poison, mais il faut peu de poison pour tuer un organisme. Paul continue avec des exhortations pratiques. Je relis à partir du verset 2, dit aux hommes âgés, je lis ce coup-ci dans la version Summer, dit aux hommes âgés de faire preuve de modération, d'être respectables, réfléchis, d'exercer une saine pratique de la foi, de l'amour et de la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes, ni adonnées à la boisson, qu'elle s'attache plutôt à enseigner le bien. Je ne sais pas pourquoi Paul vise précisément ces péchés chez les uns et chez les autres. Peut-être il se méfie de personnes d'un certain âge qu'il a vues avoir des éclats, des emportements contre ces jeunes, contre tout ce qui change avec cette nouvelle génération qui de toute façon ne respecte rien. Peut-être des personnes âgées qui regrettent le temps passé, qui sont hostiles au changement et le font savoir avec force. Ou des femmes seules, qui passent le temps en bavardage sur les personnes de l'Église, les voisins, les amis. Et les hommes ne sont pas non plus à l'abri de ces bavardages. Les hommes âgés, alors âgés, là, la culture donnait la limite à 50 ans, ils doivent être connus pour leur modération, leurs conseils avisés, leur foi, leur amour, leur persévérance. Persévérance malgré les difficultés de la vie qu'ils ont connues. Persévérance malgré une santé qui n'est pas toujours là et un corps qui montre qu'il s'affaiblit. Les femmes âgées doivent montrer par leur vie qu'elles appartiennent à Dieu et qu'effectivement, elles sont saintes. Je fais trois remarques concernant ces versets. Première remarque, c'est que la vie chrétienne est une course de fond, un marathon, pas un sprint. Il semble, d'après les marathoniens, que le plus dur se situe après le 30e kilomètre. J'étais sûr que c'était le troisième, moi, mais c'est le 30e. Et la Bible souligne que un bon début ne garantit pas de bien finir. Relisez une fois 1 et 2 rois et regardez comment certains rois qui ont tellement bien commencé ont mal fini. Il y a tous les cas de figure. Bien commencé, bien fini, mal commencé, mal fini, bien commencé, mal fini et mal commencé, bien fini. Il y a vraiment faites des tableaux, regardez, lisez, ça peut un peu renouveler la lecture de ces textes qu'on connaît peut-être, qu'on a peut-être déjà lu plusieurs fois, mais un bon début ne garantit pas que la fin soit bonne. Ça ne garantit pas que la fin soit mauvaise, mais ça ne garantit pas que la fin soit bonne. On a besoin de persévérance. Donc quand on parle de persévérance, c'est un effort qui est long pour surmonter les difficultés. J'ai jamais entendu l'idée qu'il fallait persévérer dans les vacances. En général, c'est court, c'est agréable. On va persévérer dans les moments difficiles. Des personnes âgées qui doivent donc rester humbles, garder une foi saine. Attention aux médisances qui ont fait tellement de dégâts dans les églises. Des paroles dites trop rapidement, des choses fausses qui salissent la réputation de quelqu'un. Ou des choses vraies mais qu'il n'est absolument pas nécessaire de dire. Et je dois confesser qu'il m'est plusieurs fois arrivé de dire des paroles vraies, mais totalement inappropriées, pas remplies d'amour, pas utiles. C'est terrible. Première remarque. Deuxième remarque, c'est que les personnes âgées doivent être des modèles. Elles ont une vie déjà longue derrière elles, par la grâce de Dieu, une beaucoup, beaucoup plus longue devant elles, mais ça c'est une autre histoire. Mais ces personnes n'ont plus rien à prouver dans la vie, mais elles doivent démontrer par leur maturité qu'elles ont cette longue vie avec Dieu. Elles le montrent par leurs paroles, par leur manière de réagir. Troisième remarque, c'est que ce n'est pas réservé aux plus âgés. Chacun doit apprendre à développer ses qualités le plus tôt possible pour qu'elles se manifestent avec le temps. Donc vous, voilà, désolé pour vous, mais il faudra aussi suivre, vous êtes aussi concernés. L'idée, c'est pas de se réveiller brutalement, oh, c'est mon anniversaire, j'ai 50 ans aujourd'hui. Il faut que je sois respectable, réfléchi, que j'ai une foi saine, que j'ai un comportement digne de Dieu en toute chose, que je surveille mes paroles, alors que j'ai jamais fait ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça nécessite des efforts, un travail pour laisser le Saint-Esprit nous façonner. Alors je vous encourage chacun, ben je nous encourage, faut vraiment me mettre, j'en ai besoin, à relire ces qualités. Dans plusieurs versions peut-être, une fois Bible Colombe, une fois Summer ou Français Courant, et on a des nuances, des fois dans les termes, difficiles à traduire. Et on peut en faire un sujet de prière. Prière de repentance, si un péché se manifeste. On ne fait pas d'introspection, mais si brutalement le Saint-Esprit nous souligne un péché précis, alors, en lisant ces listes, prière de repentance. Prière d'intercession, pour demander à Dieu de nous transformer. Prière de reconnaissance, pour remercier ce que Dieu veut faire de nous, pour la patience qu'il a avec nous. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à agir de manière réfléchie et pure, à assumer leurs tâches domestiques, à faire preuve de bonté et à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Recommande aussi aux jeunes gens d'agir de manière réfléchie. Versets 4 à 6. Une jeune femme à l'époque, c'est une personne généralement peu instruite, elle sait tout juste lire. Elle n'a pas de droit, seuls les hommes sont citoyens. Elle n'a pas choisi son mari, pas de vie sociale, elle sort rarement de la maison. Alors son mari peut aller voir d'autres femmes, elle doit rester fidèle. Apprendre à aimer son mari, voilà, c'est tout un apprentissage. On ne l'a pas choisi, il n'est pas forcément aimable, pas forcément proche. Il va passer du temps avec d'autres personnes, mais pas toujours avec sa femme, loin de là. Et là, le message de l'Église est révolutionnaire. On ne s'en rend pas compte, mais il n'y a ni homme ni femme en Christ. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne soit plus des hommes et des femmes, on reste homme, femme. Mais ce que Paul veut dire par ce verset, c'est qu'on a le même accès à Dieu, qu'il y a une égalité de valeur. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Ce n'était pas le cas dans la société grecque de l'époque. On parle toujours des Grecs qui ont inventé la démocratie, c'est surtout pour les hommes, la démocratie, et en plus, ceux qui n'étaient pas esclaves, ça laisse moins de monde. Un même salut pour tous, hommes et femmes. Message révolutionnaire. Et ce que Paul dit, c'est qu'il ne fallait pas que les femmes se croient tout permis parce qu'elles étaient chrétiennes et qu'elles se mettent brutalement à choquer la société en allant dans un excès inverse. C'est pourquoi elles doivent apprendre à bien gérer leur maison de manière sensée. Alors certains utilisent la fin du verset 5, c'est dit afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, pour dire que les instructions de Paul étaient valables à l'époque, dans cette société-là, que notre société a changé, qu'on va dire autre chose. Alors, la parole de Dieu nous donne trois réponses à cela. La première réponse, c'est que d'autres textes, Éphésiens 5, 1 Pierre 3, évoquent notamment la soumission de l'épouse. Ce sont des commandements permanents qui ne dépendent pas du contexte. Même si la société affirme haut et fort des messages qui s'opposent à la parole de Dieu, nous devons faire confiance à sa sagesse. Deuxième réponse, ce n'est pas le seul texte qui parle de rapport entre homme et femme. Proverbe 31 parle plutôt d'une femme qui est la maîtresse de maison, pas simplement quelqu'un qui est soumis. Elle a un rôle très important à jouer comme cœur de la maison, et puis elle a des responsabilités, y compris des responsabilités à l'extérieur. En relisant Proverbe 31, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas lié simplement à sa maison, qui travaille aussi à l'extérieur. Troisième élément, la soumission donc est demandée à la femme, qui doit avoir donc cette attitude extérieure et intérieure. C'est un choix, mais il n'est jamais dit que le mari doit soumettre sa femme. Le mari doit honorer, chérir, servir, protéger sa femme, le rôle de l'autorité, le service et la protection. Et puis, peut-être vous me détromperez, je n'ai pas vu d'interdiction pour le mari à aider dans les tâches domestiques, la bonne tenue de la maison. Et je pense que si je l'avais vu, je l'aurais retenu, mais... Donc, ne pas aller plus loin que ce que le texte dit. Puis l'autorité ne doit pas masquer le fait que hommes et femmes sont égaux devant Dieu, partenaires dans le couple, même si c'est vrai, l'homme a ce rôle d'autorité, qu'il ne faut pas lui enlever, puisque la parole de Dieu lui donne. Un mot aussi pour les jeunes, ils doivent agir de manière réfléchie. La jeunesse ne doit pas tout excuser. Maîtrise de soi, refus de donner libre cours à ses passions, savoir modérer ses ardeurs, voilà qui fait partie du fruit de l'esprit, de l'apprentissage de chacun devant Dieu. Les versets 7 et 8 évoquent Tite comme un modèle. Il doit enseigner et être un modèle, et c'est une notion capitale dans la parole de Dieu. Notre amour doit se voir et pas simplement se proclamer. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Jean 13, 35. Et encore un mot sur les esclaves, versets 9 et 10. Les esclaves faisaient partie de la maison, et c'est pour ça que Paul en parle ici avec personnes âgées, les jeunes, etc. Et ils avaient différentes fonctions. Certains pouvaient même avoir des fonctions assez élevées, être médecins, gestionnaires de toute la propriété, gestionnaires de fortune. Et donc, c'est pour ça qu'il leur est demandé d'être honnête, hein. Le détournement de fonds n'a pas été inventé à notre époque. D'habitude, il y a un mot pour les maîtres, pas ici. On ne sait pas pourquoi. Si on prend toute la parole de Dieu, on sait que les esclaves ont des responsabilités, mais les maîtres aussi. Paul ne prend pas non plus position pour ou contre l'esclavage. Il demande de vivre premièrement pour que Dieu soit honoré. Et il ne veut pas croire que les chrétiens vont changer la société parce que ça les arrange eux-mêmes. Il demande toujours le plus coûteux pour que Dieu soit honoré, pour qu'on voit que notre trésor n'est pas sur la terre et qu'on n'utilise pas la foi chrétienne comme un prétexte. Par exemple, il demande aux femmes d'être soumises, et ce sont les maris qui ont la responsabilité d'honorer et de faire en sorte que la femme soit protégée et valorisée, pas la femme qui va revendiquer pour elle-même. L'homme doit lui donner sa place. Les esclaves doivent être soumis et donner entière satisfaction à leur maître. Ça va très loin. Mais par contre, lorsque Paul écrit à son ami et frère en Christ Philémon, il demande de traiter Onésime, son esclave, qui s'est converti, comme un frère en Christ. Et ça va vider totalement le côté scandaleux de l'esclavage. Et donc, Paul ne cautionne pas l'esclavage, mais il dit aux chrétiens d'être témoins de Dieu dans leur situation. Et puis, ce sont d'autres personnes qui vont les aider. On va nous chercher la justice dans la situation des autres et pas se battre pour nos propres droits, mais se battre pour les droits des autres. Et ce sont les maîtres qui vont valoriser les esclaves par rapport à la condition terrible qu'ils avaient à l'époque. Quel est le but de tout cela? Paul le répète. Je lui relis versets 5, 8 et 10. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Verset 8. Que ta prédication soit saine et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Verset 10. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. C'est une nouvelle religion qui arrive ici en Crète. Elle est attaquée, et il faut absolument que les chrétiens montrent que cette nouvelle religion n'est pas une menace pour la société. Mais au contraire, il propose une vie qui est belle, qui donne envie d'en savoir plus. Famille, personnes âgées, jeunes, maris, épouses, esclaves doivent montrer que ce n'est pas une secte dangereuse, mais quelque chose de magnifique. Je passe à quelques applications. Quelle est notre motivation à vivre dans ce monde? Comme à l'époque de Paul, la foi chrétienne authentique est peu connue. Oh, dans notre pays, on connaît certains éléments protestants, on entend parler de certains éléments catholiques, toujours par les médias, mais là, une église évangélique reste quand même un mystère pour pas mal de personnes. Et si nous souhaitons faire connaître la parole de Dieu, ce sont premièrement nos vies qui seront un livre ouvert. Le but, c'est que nos vies fassent envie de connaître Dieu, que notre manière de vivre, au travail, en famille, montre, et même à l'église, montre que ce que nous croyons, ça tient vraiment la route. Un texte qui nous rappelle notre véritable vocation d'enfant de Dieu. Philippiens 2,15 dit littéralement que nous sommes des porte-lumière. Nous apportons la lumière de Christ où nous sommes, dans notre profession, dans un cadre bénévole. Nous vivons dans ce monde avec cette modération, cette sagesse et en fuyant le mal. Mon but n'est pas d'atteindre enfin le week-end ou de profiter de mes vacances. Je vis pour celui qui m'a sauvé. Et dans ce cadre-là, je peux tout à fait profiter d'un temps libre, ressourcer, recharger les batteries. On en a besoin dans ce monde. Mais ce n'est pas le but premier. Le risque, c'est d'être happé par tout ce que l'on fait et d'oublier la saine pratique de la foi, comme dit l'apôtre Paul. Notre société a rejeté la foi chrétienne. Nous avons un défi, un challenge, comme on dit en anglais. C'est le même mot, mais ça fait mieux que dire qu'on a un challenge. Donc ce défi ou ce challenge, c'est de montrer que les critiques contre les chrétiens ne sont pas fondées, qu'elles ne sont pas justifiées. Et notre vie doit rendre l'enseignement biblique attrayant. Alors, le but, ce n'est pas de se taire, hein. On doit annoncer l'évangile en parlant autour de nous, sinon les gens ne connaîtront pas qui est Christ. Mais nous devons montrer que cet évangile est pertinent, et nous ne pouvons le faire que par notre vie, parce que nous fuyons le mal, parce que nous vivons cet amour. Des personnes âgées modèles de la communauté, qui s'attachent à l'essentiel. Les formes changent, le culte, la vie quotidienne a bien changé. C'est toujours intéressant de discuter avec des personnes qui ont quelques décennies de plus que nous et de poser des questions sur la vie quotidienne. Ça, je vous encourage, pour vous, il y a encore un plus grand décalage. Mais le but, ce n'est pas de perpétuer des formes, mais se demander, Dieu est-il correctement honoré, présenté? Est-ce que la vie, est-ce que l'Église donne envie de connaître ce Dieu? Des plus jeunes aussi qui sont appelés à faire preuve de modération. Il y a quelques années, Génération Challenge, vous voyez, c'est encore ce mot, était sorti et il demandait que les jeunes se rebellent. Mais contre quoi? Contre les attentes médiocres, faibles de la société envers eux. Suis les cours, range un peu ta chambre, fais quelques tâches ménagères, mais pas trop, et ce sera parfait. C'est tout? Alors qu'ils sont à un âge où ils ont tellement de possibilités. Et un livre, courage pour les parents, pour les jeunes, lire, si vous ne le connaissez pas, pour que les jeunes agissent de manière réfléchie. Vous avez des potentialités extraordinaires, des possibilités magnifiques, mais pas pour des excès, pour vivre une vie à la gloire de Dieu. Et puis dans le cadre du travail, il est demandé honnêteté, loyauté, un engagement fidèle premièrement à l'employeur. Il existe toujours des exceptions, des abus de la part de tel ou tel employeur, même si dans le cadre des maîtres et des esclaves dont parle Paul, les abus étaient nombreux. Il peut y avoir des fraudes et des injustices flagrantes à dénoncer. Mais dans la plupart des situations, il est premièrement demandé un service fidèle, honnête, efficace, pour montrer cet esprit de service. L'importance d'une foi vécue. Un exemple de l'histoire. On a beaucoup parlé l'année dernière de Luther. Je continue. Ça vous saurez bientôt toute sa vie. Mais il a choisi de revenir à des principes bibliques, notamment concernant le culte, la vie en général. Et il s'est interrogé sur le baptême, engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais à l'époque, ceux qui pratiquaient le baptême d'adultes, les anabaptistes, ce n'étaient pas les ménonites qu'on connaît maintenant, qui vont venir juste après, hein, ces ménonites non violents. C'était des révolutionnaires, les anabaptistes, qui ont déclenché la guerre des paysans. Et si vous regardez le film Luther, il y a des scènes vraiment violentes, on n'a pas tout passé à la gerbe, on a fait une ou deux coupures, c'était vraiment violent, des villes entières à feu et à sang. La doctrine était juste. Mais par leur vie, ils faisaient peur. Ils n'ont pas donné envie d'en savoir plus. Et des hommes versés dans les Écritures comme Luther n'ont plus après abordé la question du baptême, parce que probablement que ceux qui le défendaient avaient une telle vie que ça ne donnait pas envie d'aller plus loin. La vie qui a une influence sur la manière de considérer ce que nous croyons. Avant de conclure, deux questions. Deux courtes réponses, et j'aurai un petit développement quand même. Est-ce que nous croyons que ce texte s'applique encore aujourd'hui? Des personnes âgées comme modèle, une vie de famille qui fait envie de connaître Dieu, des personnes qui cherchent à être agréables à leur employeur, une foi chrétienne qui fait envie, des chrétiens qui, dans ce monde, donnent envie, par leur vie, de connaître Dieu. Mais en quoi vous croyez? Je peux trouver beaucoup d'excuses pour ne pas vivre ce qui est demandé. Toute une liste. Ce texte est ancien quand même. L'apôtre Paul est misogyne en plus. Puis la société a tellement changé. Mais est-ce que je crois que la parole de Dieu est toujours pertinente? Est-ce qu'elle a encore quelque chose à me dire? Ou est-ce que c'est un écrit purement humain? Si oui, C'est un programme vraiment ambitieux. Deuxième question, est-ce que je vis ces choses? Ou est-ce que je désire les vivre? Ou est-ce que je crois que je dois m'efforcer de les vivre? C'est une question, mais en trois. Est-ce que je les vis? Est-ce que je désire les vivre? Est-ce que je dois m'efforcer de les vivre ou de désirer les vivre? Un texte qui montre notre échec personnel. L'opposition à la foi chrétienne est en partie due aux chrétiens eux-mêmes. Quelle humiliation. C'est pour ça que le texte continue. Alors on va le voir en détail la prochaine fois. Dans deux semaines, on verra ce texte. Mais je lis encore les trois versets suivants parce qu'ils sont indispensables. On ne peut pas lire les 10 premiers versets sans lire la suite. Sinon, on coupe le message de l'évangile. Voilà comment... Après avoir donné toutes ces instructions, Paul continue. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme source du salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu. Et sauveur. La grâce de Dieu s'est manifestée. Et c'est pour ça que nous pouvons vivre selon les commandements de ce texte. Trois pensées à ce sujet. La grâce rappelle à la fois notre échec personnel. Il a fallu cette grâce de Dieu. Mais aussi que Dieu a tout fait. Nous n'avons pas les moyens d'obéir à Dieu. Nous péchons. Mais nous pouvons nous laisser relever par ce grand Dieu. Qui aime pardonner, nous avons rappelé le fondement de ce pardon avec la scène. Deuxième remarque, c'est une grâce qui nous éduque, qui montre l'étendue, qui montre l'horreur du péché. Elle nous apprend à haïr le péché en nous rappelant l'horreur de la croix. Jésus a condamné le péché par sa mort. Dimanche dernier, Pentecôte, nous avons aussi rappelé que Jésus ne nous laisse pas seuls, mais qu'il envoie son esprit. Malgré nos chutes, malgré nos erreurs, notre caractère, nos découragements, l'Esprit est à l'œuvre. Il agit, réponse à nos prières, il transforme notre intelligence lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous sommes confrontés à un enseignement biblique, le dimanche matin, lorsque nous lisons un livre aussi chrétien. Dieu nous transforme. Il utilise aussi les épreuves, l'Église, nos circonstances, nos rencontres. Il le fait pour nous transformer, pour nous purifier. Et il nous demande de nous laisser transformer en recherchant sans cesse sa volonté, en ayant ce désir et en mettant toute notre énergie à pratiquer le bien. Troisième remarque, ce texte est réaliste parce qu'il nous montre l'objectif. Glorifier Dieu, glorifier ce Dieu qui nous transforme. Agissez comme moi qui m'efforce en toute chose de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. C'est Paul qui le dit, 1 Corinthiens 10, 33. Ou encore, vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps, 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Tout vient de Dieu, et tout est pour lui. Il nous donne la vie, il nous donne une vie nouvelle. Il nous transforme par son esprit, afin que nous donnions envie de connaître celui qui doit être glorifié par tous. Je conclus. Par grâce, le chrétien s'efforce d'être un modèle dans l'Église et dans la société, pour que tous glorifient Dieu. Par grâce, le chrétien s'efforce d'être un modèle dans l'Église et dans la société, pour que tous glorifient Dieu. En Crète, de faux enseignements menaçaient la foi chrétienne. Les habitants sont dépravés. Paul demande d'organiser l'Église, de donner un enseignement solide. Mais il demande deuxièmement que cet enseignement soit mis en pratique par les chrétiens, qui deviennent des modèles, des démonstrations vivantes que la foi en Christ est excellente. Les faux enseignements sont encore présents aujourd'hui. La manière de vivre de notre société n'honore pas Dieu. Et nous sommes appelés à être des démonstrations vivantes de la valeur de la foi chrétienne. Par nos paroles, l'évangile doit être prêché pour être connu. Par notre vie. Et personnellement, nous en sommes incapables. Mais par la foi, parce que nous comptons sur l'indispensable action de Dieu en nous, par son esprit, sur l'action de sa grâce en nous. Alors il n'est pas possible d'ignorer ce message. Par grâce, Le chrétien s'efforce d'être un modèle dans l'Église et dans la société pour que tous glorifient Dieu. Propose quelques instants de silence, puis je terminerai par la prière. Merci Seigneur notre Dieu pour cette parole précieuse. Merci notre Dieu de nous avoir laissé cette parole qui nous dit non seulement quel est le chemin à suivre, mais qui nous rappelle où sont les forces pour faire la route. Combien nous avons besoin de toi au quotidien pour vivre selon les instructions de ta parole qui sont bonnes, qui sont excellentes parce qu'elles viennent de toi. Et Seigneur, bien, montre-nous à chacun là où est le prochain pas, là où tu souhaites que avec ton aide, que nous progressions. Merci aussi parce que tu nous relèves à chaque chute, parce que nous pouvons compter sur ta grâce et ton pardon. Merci pour ta patience. Quel privilège, notre Dieu, de pouvoir nous approcher de toi librement et de savoir que nous sommes au bénéfice de ton amour et que tu as le désir de nous transformer à l'image de Christ. Amen.